Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau magazine de la moto, le dimanche de 11h à midi sur le 106.6 de Radio Campus Lille ou www.campuslille.com. Au sommaire de cette émission, excusez-moi, nous avons rendez-vous avec Gilles Fagnin pour l'actu du Superbike. Gilles, bonjour.
Bonjour, ben oui, on va revenir un peu sur cette saison qui a été un peu sympa pour les pilotes français. Ce qu'on a loupé, ce qu'on a réussi et puis les évolutions du règlement, évolutions techniques pour les années à venir. 2014-2015, des gros changements en perspective.
Nos invités, Gilles, je te présente Claude Bonduel et Nicolas Poiret. Tu les connais ?
Salut Gilles.
Forcément.
Tu fais semblant que tu ne peux pas les connaître.
Ah, d'accord. Bon, non,
Voilà, alors, ces deux bonhommes, là, ces deux grands passionnés de sport moto, avec eux, nous allons dérouler le fil du championnat du monde de vitesse sur route 2013, qui s'est terminé dimanche dernier sur le circuit de Jerez en Espagne. Une course qui a été finalement remportée par Jorge Lorenzo, ce qui n'a pas empêché le couronnement d'un pilote de 20 ans, Marc Marquez, devenir le plus jeune champion du monde de la catégorie Rennes.
Oui, une belle
saison. Messieurs, Claude et Nico, là.
Une belle saison, très mouvementée.
J'ai bon, c'est vrai.
Hein. Et puis, un beau spectacle.
Alors, est-ce que, est-ce
et la consécration des Espagnols, une fois de plus.
Alors oui, alors attends, est-ce vrai que depuis que le championnat existe, c'est la première fois qu'un pilote de 20 ans remporte, en plus la première saison, hein.
Oui.
Première fois qui
en catégorie Rennes.
Oui, il a battu Freddy Spencer à peu près de 200 jours au niveau de l'anniversaire du titre de champion du monde, à peu près.
Alors si je vous dis Marquez, Espargaro, Vinales, quel est le point commun ?
Les Espagnols.
Il y a un problème. On va finir par faire un championnat.
Non, je pense que le problème, ça a été la mise en place dans le pays espagnol d'un championnat très costaud et investissement massif pour faciliter l'arrivée de super pilotes.
Mais c'est incroyable, là, écoute.
Même si depuis
les trois catégories, la Moto 2, Moto 3 et GP.
Oui, je sais.
Trois champions du monde.
J'ai fait des statistiques.
Ouais, mais il faut dire aussi que les teams sont. Il y a de l'argent en Espagne pour la moto, alors qu'il y en a
pas. C'est plus vrai maintenant.
Nico, il paraît qu'il y a un gros problème de pognon en Espagne.
Avec Bankia, notamment les banques espagnoles qui finançaient beaucoup. On
ne
se sont un
plus,
peu retirés.
Mais le problème est là, c'est qu'ils sont sortis, ces gens-là, et ils sont vraiment parfois au-dessus du lot. Quoi. On les a aidés, ils se sont affirmés.
Les Français viennent faire le championnat espagnol. Pour essayer de progresser, pour se confronter à un bon niveau.
Donc il faut aller là-bas en Espagne pour pouvoir être un très bon pilote. Alors.
Ouais,
espérer de gagner un grand championnat,
Stoner avait fait le championnat espagnol, les Français qui veulent, il y a le championnat CEV.
Vinales, c'est pareil, il avait fait le championnat espagnol, pratiquement tous ceux qui sont là ont fait le championnat espagnol.
Mmh. Et puis alors pour l'année prochaine, je vois pas trop qui pourrait venir se battre avec ces pilotes, hein, parce que...
Il y en a pas mal qui passent en Moto 2, donc ils changent de catégorie. Donc,
Oui, Moto 3, ça risque peut-être un peu de changer, par contre en Moto 2, pourtant cette année, c'est là où il y a eu le plus de victoires, on va dire, étrangères à l'Espagne qu'en 125, où pratiquement il y a trois Espagnols qui sont dominés toute la saison. Et c'est pareil en Moto Grand Prix, hein, c'est trois Espagnols qui sont pratiquement dominés toute la saison.
On a vu Cruchelot, l'anglais, qui éventuellement
en
début de saison, qui
ancien champion super sport.
Une fois qu'il a signé chez Ducati, il n'y a plus personne. Ça allait beaucoup moins
bien. Cruchelot, en fait, est arrivé vers le milieu de saison quand Yamaha a décidé, tout comme Honda d'ailleurs, de donner des moteurs usines aux types satellites.
Ouais.
C'est ce qui a permis à Bradl, par exemple, ou à Bradley Smith aussi, de briller face à...
Bradley Smith, c'est... je pense que c'est pas un surdoué, mais c'est un méticuleux. C'est quelqu'un qui se forme petit à petit.
En fin de saison, il était bien.
Oui, voilà. Il était, au début de saison, il était toujours après... après Dovizioso. Et Hayden au final, et après la mi-saison, il était toujours devant.
Oui, parce qu'après la mi-saison, encore une fois, les écuries ont décidé de donner les moteurs usine au team satellite. C'est-à-dire que quand Tech 3 a reçu ses moteurs, ils se sont demandé où étaient les kits, parce qu'il y a des kits électroniques, et il n'y en avait pas parce que c'était les moteurs usine, les mêmes que Rossi, que Lorenzo. Alors Yamaha a fait ça parce que pour donner la réplique à Honda. Parce qu'ils se sont aperçus que les teams satellites.
C'est le contraire.
Attendez, messieurs, on a une heure pour discuter. Ça, vous n'allez pas vous parler. Mais attendez, c'est incroyable, ça, quand même. Non,
la musique,
je vous présente Christine. Christine, vous savez qui c'est, Christine, quand même, pour l'Info Club.
Oui, pour l'Info Club.
Parce que je pense qu'à 11h30, un président de Moto Club va nous appeler pour nous donner quelques nouvelles d'une grande manifestation qui aura lieu au mois de décembre, début décembre.
Effectivement, Bill, qui est donc président du Motoclub de Mémac et organisateur de la concentration des 1000 vaches va donc être présent à 11h30 sur notre antenne.
En direct sur campus.
Voilà.
Ouais. C'est ce que tu voulais dire, Christophe.
Voilà. Le magazine de la moto, c'est tous les dimanches de 11h à midi sur Campus Lille. Un peu de Superbac, de l'actu Superbac avec Gilles Fagnin.
Oui, alors surtout d'abord pour cette fois le retour un peu sur cette saison où on a vu Tom, parce que la dernière fois que je suis venu ici, en fait la dernière course de la saison allait avoir lieu à midi, c'est-à-dire à la fin de l'émission, rappelez-vous. Et donc Kawasaki et Tom Sykes, qui avaient un prix de l'avance sur Sylvain Guintoli notamment, a remporté le titre de champion du monde, mais Mais je voudrais insister sur un détail, c'est Aprilia qui a remporté le titre constructeur, et non pas Kawasaki. Parce que tout le monde, du coup, fait l'amalgame. Hein.
Oui, non.
Voilà, donc...
Il y avait Verti, il y avait un autre Anglais qui était bien placé également.
Voilà, alors la Verti, c'est un Irlandais. Et lui, en fait, il s'est battu toute la saison avec Sylvain Guintoli.
Dans le même team.
Et dans le même team, avec la même machine. Et Sylvain Guintoli était devant lui jusqu'à une certaine chute de vélo qui l'a privé de ses moyens.
C'est dangereux.
Dommage. Jamais, il faut rouler en vélo. C'est pas...
c'est dangereux, le vélo.
Je l'ai toujours dit. Et donc, Sylvain Guintoli, malheureusement ne termine que troisième, mais on a quand même de la chance puisque Tom Sykes je pense pas qu'il sera à nouveau là l'an prochain puisque à mon avis il a des ambitions autres, notamment en MotoGP peut-être. Il y a des essais
pour l'instant, c'est pas fixé, rien de concret.
Et ceci dit, mais par contre Eugène Laverty, pour lui c'est fait. Eugène Laverty lui s'engage en MotoGP l'an prochain avec pour en fait il va rentrer dans la nouvelle catégorie
qui remplace les CRT avec un moteur en fait de série sur un châssis prototype.
Et donc Sylvain Guintoli n'aura plus cet ennemi juré dans son propre team. Et Aprilia prévoit d'ailleurs de rentrer en GP en 2015 ou 2016.
Oui, il y en aura peut-être un autre.
Oui, il va y avoir
un Italien dans une écurie italienne. Oui. Ça fait toujours un petit peu bizarre, hein, surtout pour le second pilote.
Ouais.
Ce sera Melandri.
Melandri, et là, il va avoir
en tout cas pour 2014, Sylvain Guintoli a re-signé chez Aprilia. Et à mon avis, il a de bonnes chances cette fois-ci de briller et d'être devant. Alors, il y a un autre pilote aussi dont je voulais vous parler, c'est Loris Baz. Excellent, en autre pilote de 20 ans, décidément cette génération des pilotes de 20 ans, je ne sais pas ce qu'ils ont mis dans les biberons à l'époque, mais en tout cas, c'est l'art de marcher. Loris Baz, c'est un pilote au départ franco-suisse et il a commencé sa carrière
Le départ franco-suisse.
En endurance.
À l'arrivée, il était quoi?
Pardon?
Au départ, non, le départ était franco-suisse. Et à l'arrivée, il était quoi?
Non, mais à l'arrivée, aujourd'hui, tout le monde considère qu'il est français.
Ah oui,
voilà. Parce que Loris Baz, c'est un pilote talentueux, malheureusement. Il s'est aussi blessé. Il a gagné quand même 2 années de suite en Angleterre. Alors ça a été vraiment génial, ils étaient sur le podium avec d'ailleurs un troisième larron. Donc lui il termine Loris Baz 8e du championnat seulement parce qu'il a loupé des courses suite à ses blessures, il n'a pas pu rouler non plus les dernières.
Bonne recrue de Kawasaki.
C'est une excellente recrue, il continue chez Kawasaki l'an prochain. Donc il va être toujours au peut-être aux côtés de Tom Sykes ou d'un autre pilote, on ne sait pas trop. Et puis, le troisième larron, c'est Jules Cluzel. Alors lui, aussi étonnant, un pilote de 25 ans seulement.
Qui débarque.
Qui débarque dans la catégorie, mais il est quand même, c'était quand même le vice-champion du monde supersport, Jules Cluzel. Et donc, Jules Cluzel qui démarre avec une Suzuki qui ne marchait pas, dont personne ne voulait. Il monte dessus et là, il fait 10e avec quelques déboires aussi mécaniques, etc. Ce qui est excellent comme résultat, 10e en Superbike mondial.
Oui, il fait aussi bien que celui qui était là depuis 3 ans sur Suzuki, c'est Camier.
Il fait mieux même. Il fait mieux que son coéquipier. Ouais. Donc franchement, on a 3 Français là.
On parle des Espagnols, mais c'est vrai que les Français et les Anglais en Superbike, c'est eux qui tiennent le haut du pavé.
En GP, on n'en a pas, mais par contre, Superbike, on a du monde. Alors, par contre, ça risque de changer un peu pour 2014. Je vous en parlerai tout après la pause musicale.
You want a diamond ring? Walk this way, baby. take a bite, I said, have you seen my girl? Had a girl that rocked your world. How she got this way, Lord, she can't explain. A new Thunderbird. You're so damn sexy, girl. I gotta keep you for my own. So keep on teasing sugar. And daddy gonna take you home, I said. Well, have you seen my girl? The kind of girl that rocked your world. How she got this way, Lord, you can't explain. Talk about my.
Le magazine de la moto le dimanche de 11h à midi sur le 106.6 de Radio Campus Lille ou www.campuslille.com.
Wow. Avec Gilles Fagnin pour l'actu Cyberback.
Oui, alors avec, je vous en parlais juste avant, ce super morceau de musique proposé par Laurent. La catégorie World Superbike est en train de, est en passe de subir une évolution radicale. En réalité, pour l'année prochaine, les pouvoirs sportifs, la Dorna, se sont mis d'accord avec les constructeurs pour proposer une nouvelle catégorie qui s'appellera la classe Evo, un peu ce qui s'est passé pour le comme un peu similaire à ce qui s'est passé pour le GP, pour la CRT. Alors cette classe Evo, qu'est-ce que c'est? Et ben effectivement, ça va être des machines avec des moteurs stock. Et alors pour ne pas être comme la catégorie Superstock, puisque vous savez qu'il y a une catégorie Superstock dans Superbike, ouais. En 1000 Superstock et 600 Superstock.
Pour ne pas explique aux auditeurs pour rester ce que c'est, voilà, parce que pas, c'est pas forcément.
Alors la catégorie Stock, la catégorie Stock, ce sont des moteurs sortis de caisse, produites à plus de 5000 exemplaires dans le règlement, etc. Et donc commercialisés. C'est la moto de Monsieur Tout le Monde, mais bien sûr full power avec quelques petites améliorations, mais vraiment très peu échappement et c'est tout. Enfin bref,
le championnat correspond à ce qu'était le championnat d'Europe en fait.
Voilà. Et ensuite, et le Superbike jusqu'à présent, c'était des moteurs avec prototype, avec développement moteur, etc. Et en fait, il y a un problème. Il a paru qu'il y a de moins en moins d'équipes qui s'engagent dans le championnat Superbike. Alors pour endiguer un peu cette désaffection de la catégorie, ils ont imaginé que on va créer cette nouvelle catégorie Evo. C'est qui peut être résumé comme ayant des châssis Superbike, des châssis typiques. Donc on pourra travailler sur les châssis, un peu comme en Moto 2.
Moto 2,
mais par contre, au niveau des moteurs, ce sera vraiment très limité. Alors il y a des idées, hein, comme par exemple, on limiterait l'électronique et par contre on autoriserait le développement des arbres à cames, c'est-à-dire on favoriserait le développement mécanique au détriment de l'électronique. Pour revenir à des choses plus... Alors ça permet de limiter les coûts, parce que l'électronique, il n'y a pas de limite au niveau de la dépense, alors qu'en mécanique, il y a une limite, à un moment donné, on ne peut plus... Voilà,
une fois que c'est optimisé.
Voilà, c'est optimisé. Donc en fait, voilà ce qui va se produire pour la catégorie. Alors cette catégorie Evo va être introduite en 2014, là, à partir de l'année prochaine, mais elle va devenir la règle. C'est-à-dire elle va se généraliser, il n'y aura plus du tout de Superbike tel qu'on
l'a connu. C'est pas comme le CRT pour remplir la grille, voilà. C'est une transition.
C'est une transition, c'est pour 2014. Et là, il va y avoir vraiment un changement complet de catégorie, puisque en fait, l'actuelle série 1000 Superstock est dominée par Kawasaki. BM et Ducati. Et la première Honda se trouve qu'à la 13e place, la première Suzuki se trouve à la 25e place, il n'y a pas une seule Aprilia RSV4. Donc c'est dire si les cartes vont être complètement rebattues, et donc les changements de pilote dont on parlait, etc., les stratégies vont bon train en ce moment, parce que tout le monde se demande comment ça va pouvoir évoluer, comment on va pouvoir, quel pilote va pouvoir aller chez quelle écurie pour pouvoir avoir une chance d'avoir un titre, etc. Donc il y aura des restrictions de pratique, hein. Déjà, c'est déjà le cas pour le GP, mais il y a interdiction des essais d'hiver entre le 1er décembre et le 15 janvier. Donc interdiction. Et là, c'est seule la Dorna organisera les tests officiels, donc à Phillip Island, avant la course, et puis aussi après certaines courses, comme cette année on a vu, après Catalunya, le lundi, on fait des essais, etc. Et donc il n'y aura pas d'autres essais autorisés. Et puis aussi, il n'y aura que 6 moteurs par saison. C'est important. Et puis, une option de boîte, c'est-à-dire il faudra choisir seamless ou pas seamless, et puis terminer. Quoi. On ne pourra pas changer en cours de saison. Voilà, donc ça change complètement la
partout,
catégorie.
C'est la crise, hein, c'est réduire les coûts.
Alors, moi, je me demande aussi si
c'est pas... Oui, le but, c'est de faire un moins cher.
Réduire les coûts.
L'objectif, c'est de réduire drastiquement les coûts, mais derrière ça, je me dis que, en fait, comme le Superbike a un bon engouement, parfois il pouvait faire de l'ombre au MotoGP.
Oui.
Est-ce que c'est pas non plus pour pousser les écuries, les teams, les constructeurs à s'engager plus en GP et à délaisser un peu le Superbike? Alors là,
c'est
voilà.
Vrai que sur certains circuits, quand on voit les temps faits par les Superbikes et les temps faits par les MotoGP, ils pourraient prendre le départ avec des motos dérivées de la série. Voilà. Ça ferait...
Surtout que la Dorna, c'est aussi promoteur de.
Voilà, et je pense que la Dorna,
MotoGP
voilà.
Et du Superbike.
Voilà. C'est ça un petit peu le verre dans le fruit, c'est voilà. Que avant c'était deux championnats bien séparés, maintenant l'organisateur est le même. Donc il a tendance à essayer de bien les distinguer séparer, pour voilà. Pas que ça se bouffe. Voilà.
Et donc du coup on risque d'avoir des courses peut-être un peu moins rapides en Superbike, alors que c'était vraiment des courses vraiment très attrayantes.
Bah, c'est course en paquet très avec, spectaculaire
avec deux manches, etc. Je veux dire c'est vraiment
il y avait
mouvementé.
Plus de changement de leader en, sur un
et ouais, et
sur puis, une course
un
championnat MotoGP hein,
un championnat
fois, c'est un peu triste hein.
2013 ouais. Très disputé,
plus de marques qui disputaient, c'était plus finalement disputé à tous les niveaux
hein. Ouais. Ouais. Donc c'est un peu dommage, moi je trouve. On verra bien ce que ça donne, mais voilà, je voulais.
Ça peut marcher, hein, ça peut marcher. Quand on voit Moto 2, finalement, ça se passe pas si mal.
C'est vrai, mais bon, là, il y aura. Franchement, les cartes sont complètement rebattues, on sait pas du tout ce que ça va donner. Quoi.
C'est l'aventure.
Seems like it's quitting time. My back is aching and I heard the whistle. Gotta be about quitting time. I see my woman down the street. She ain't looking back. I guess that she's no longer mine. It must be quitting time. Cause I got
Au téléphone, nous avons Francis Deluché. Francis, bonjour.
Oui, bonjour à tous. Bonjour.
Alors Francis, dit Bill, hein, tu es président du motoclub de Mémac, hein, qui organise donc cette fameuse hivernale sur le plateau des Mille Vaches.
Tout à fait, oui, c'est ça.
Est-ce qu'on pourrait refaire un petit historique de cette fameuse concentration?
Alors oui, bon, pour y voir un peu plus clair, donc cette concentration a été initiée à la base dans les années 70, hein, en 1969 pour être un peu plus précis, donc par Michel Perdry qui était à l'époque le président du MC 95 en région parisienne. Cette concentration a duré donc jusqu'en 73 au grand public, ouvert au grand public, et ensuite de 73 à 79 sur invitation vu le nombre de personnes qui venaient. Voilà, et donc en 2009, ben, le motoclub Mémacois, donc qui est basé sur le plateau de Mille Vaches, a décidé de reprendre cette manifestation en 2009. Et de 2009 à aujourd'hui, ben voilà, ça n'a cessé de grimper au niveau des inscriptions.
Avec tout de suite un grand succès en plus.
Ouais, tout à fait. On a eu 1500 inscrits dès la première année. Donc les gens ont gardé une bonne mémoire. Oui, tout à fait.
Ben, très bien. Et par contre, cette année-là, on ne comprend pas trop parce qu'il y a deux mille vaches.
Alors, éléphants et les vaches.
Alors, on est 5-6 dans les studios. On se pose la question, ouais. Bill.
Oui. Alors, ben oui, effectivement. Bon, il y a une petite polémique cette année qui s'est instaurée. On va pas en faire large dessus parce qu'on veut pas polémiquer. Bon, il y a un fait malheureux cette année. Il y a un de nos membres qui nous a rejoint en 2010, justement pour nous rejoindre au niveau des mille vaches, et qui est parti un peu avec les clés des mille vaches de son côté, et qui a essayé de reproduire ce même type de manifestation, mais en Auvergne. Voilà, donc
Alors l'Auvergne, c'est pas le plateau des mille vaches.
Ah, ça n'a absolument rien à voir.
La concentration des mille vaches, c'est sur le plateau des mille vaches, c'est pas en Auvergne.
Le plateau des mille vaches se situe en plein cœur du Limousin, voilà. Donc avec une partie sur la Corrèze et puis une partie sur la Creuse, le sud.
Alors,
de la Creuse.
Le problème, c'est que, et je connais des motards ici qui se sont inscrits là, pour participer à cette hivernale, ils ne savent plus trop où ils doivent aller en fait. Parce que ça se passe le même jour. Hein.
Voilà,
c'est le même jour, c'est un peu ridicule aussi ça.
Voilà, cette personne a choisi le même jour pour un peu plus nous embêter et puis surtout créer l'amalgame et induire en erreur les personnes. Certaines personnes se sont pris un peu au jeu et effectivement se sont un peu gourés d'endroits. Donc on s'attend à avoir pas mal de monde de venir sans inscription, croyant venir justement aux mille vaches qu'on organise.
Comment ça va se passer pour eux alors? Ça passera comment?
Nous, on va les accueillir, il y a aucun
problème. Il y aura de la place quand même pour eux?
Oh oui, nous, il y a aucun problème, on a 12 hectares qui les attendent.
Ouais, j'ai bien vu que l'année dernière, j'ai participé à l'hivernale, donc j'ai vu qu'il y avait du terrain, il y a de la place.
Oui, il y a du terrain, il y a tout ce qu'il faut, donc on attend tout le monde de pied ferme. Tout est prêt, on a quelques petits détails à régler, mais tout se passe bien, il n'y a pas de problème.
Bon, donc on rappelle que c'est le 7 et 8 décembre, on arrive...
7 et 8 décembre, voilà.
Est-ce qu'il y a de la neige actuellement?
Ah oui, c'est la question que j'avais posée.
Alors, il y a mi-octobre, on a coupé le bois. Cette année, on a fait fort parce qu'on a 3 semis de bois, ça représente à peu près 155 stères et 38 cordes, voilà, pour chauffer tout le monde. Il y avait déjà de la neige, donc...
De la neige mi-octobre.
Oui, parce que Gilles, il va venir vous voir, là.
Voilà, et puis les températures sont négatives, on va dire, depuis déjà une bonne semaine.
Ah oui.
Et ils annoncent du moins 4, moins 5 tous les jours, toute la semaine qui arrive.
Une bonne hivernale.
Voilà.
Excellent.
Hein. Et dont un peu de neige dès jeudi même déjà.
Alors Bill, la question, Bill, est-ce que le bois est gratuit?
Ah, le bois est gratuit, c'est parti de l'inscription, donc c'est une inscription à 10 euros.
Bon. Donc c'est 10 euros et bois gratuit.
Ah, c'est extraordinaire.
Bois, voilà, le bois est compris dedans, gratuitement, l'emplacement pour le bivouac, un petit millésime 2013 qu'on peut accrocher sous la médaille chaque année, un motocollant millésimé, et puis un petit cadeau, et même deux boissons offertes dans ce petit pack cadeau.
Voilà, pour 10 euros...
Comment vous faites?
C'est pas cher. Hein.
Comment on fait? On fait avec ces 10 euros, voilà.
C'est excellent. c'est super.
Il n'y a aucun sponsor, c'est non commercial. Voilà, c'est vraiment strictement pour le plaisir et pour que tout le monde s'y retrouve. Quoi. Voilà. Et sachant aussi que toutes les boissons vendues à la buvette durant cette manifestation sont à une vache. Hein, parce que nous, on parle en vache.
Ah oui, parlez en vache, vous. Hein, ouais,
on paye en vache.
C'est la monnaie locale, voilà.
Ah ouais.
Faut la ramener derrière la moto.
Voilà, une vache égale un euro. Hein.
C'est pas très pratique pour payer. Vous savez, quand on va mettre la vache sur le comptoir...
Ah, oui. Non, on a une petite banque et on fait des échanges, pas de problème.
Très bien. Bon, donc je rappelle, c'est le 7 et 8 décembre sur le plateau des 1000 vaches. Hein,
faut dire l'endroit parce qu'il ne faut pas se tromper.
Oui. Bah, c'est à Mémac. Hein,
Mémac. Motoclub Mémac.
Bah, la route de Lille, ici, ouais. Il y a 800-900 bornes. Hein, donc déjà, il faut se les faire. Déjà. Voilà. Et puis, sur le week-end, déjà, c'est pas mal. Hein, ça fait presque 2000.
Ah oui, ça fait un bon aller-retour. Hein, parce qu'en fait, on reste plus de temps sur la route que sur les lieux.
Bah voilà. Et Bill, on te remercie d'avoir répondu à nos questions.
Et bien de rien, et puis ben, certainement l'année prochaine.
Et bonne manif.
Bon dimanche.
Ciao, ciao.
Merci, au revoir. À très bientôt. Au revoir.
Et voilà, on est reparti, on embarque, on est sur le circuit de Qatar. On est aux commandes de cette fameuse Honda, et puis on est à 300 km/h, on va aborder le premier virage. Claude, qu'est-ce que tu fais? Tu freines.
Ah ben, un virage, il vaut mieux, hein, il vaut mieux quand même freiner. Mais
voilà, après, après le Superbag, là-dessus, on va revenir sur cette saison 2013, hein, championnat du monde, qui a été remporté par Marc Marquez, oui. Le plus jeune, 20 ans.
Ouais, à la stupéfaction de beaucoup, je pense, parce que beaucoup de gens ne l'avaient pas mis dans le tiercé, même un peu, mais en se disant qu'il allait faire des fautes, puisque pendant les essais hivernaux, il marchait très fort, on voyait très bien, mais il a chuté. Il a chuté au début, donc on s'est dit, bon, il va en rater quelques-uns et il va être placé, mais bien, mais pas comme ça. Chapeau, vraiment.
Voilà, il y a un écart de 4 points entre le premier et le deuxième, c'est-à-dire Lorenzo. C'est incroyable, au bout de. Il y a 16 courses, hein, il y avait 16 courses cette année.
Oui, il s'est passé des coups de Trafalgar, on va dire. Il y a eu des blessures. Lorenzo s'est blessé, il est revenu, tout s'est passé en milieu de saison. Hein. Tout vraiment s'est passé en milieu de saison. C'est-à-dire que Lorenzo s'est blessé, après c'est Pedrosa qui s'est blessé, ils ont raté chacun un Grand Prix, ce qui a permis de prendre... Marquez a pris l'ascendant vraiment, vraiment sur les deux autres, en marquant, en gagnant 4 courses d'affilée, quoi.
Alors il faut quand même, c'est incroyable, parce que regarde, Marquez a chuté 15 fois. Alors je suis d'accord avec toi, Nico, c'est pas en course, hein, c'est aux essais. Ouais. Et Lorenzo 3 fois.
Ouais. Bah, il s'entraînait pendant les deux premières années de moto.
Et malheureusement, Lorenzo se casse la clavicule et donc forcément il est out pour en gros pour deux courses. Hein.
La première année où Lorenzo est arrivé en MotoGP, il a pas arrêté d'être par terre. Donc c'est vraiment une grosse marche.
Et regarde, il a eu Lorenzo a 8 victoires et Marquez 6. Moi ça me fait penser un petit peu au Grand Prix en 2006 quand Nicky Hayden devient champion du monde. Oui. Mais il ne devient pas champion du monde parce qu'il est vraiment très bon. C'est parce qu'en fait, Rossi, manque de bol, il a fait une saison déplorable mais incroyable. Vraiment, il a toutes les peines du monde. Et Hayden devient champion du monde.
Marquez, il a été sur le podium tout le temps. Ouais. Sauf deux fois. Une fois où il est tombé et une fois où il était disqualifié. Donc c'est pas un épicier.
Il y a une fois où il est tombé à 300 km/h.
Oui, moi je trouve qu'il a un bol.
Il a été sauvé cette fois-là par la nouvelle combinaison Alpinestar gonflable. Et ça, je sais pas si vous en avez.
Ah oui, la fameuse. Il avait ça.
Et c'est ça qui l'a sauvé.
Moi, il y a deux choses qui m'ont marqué. C'est qu'en une seule saison, il a fait les deux grands coups de Rossi sur toute sa carrière. C'est-à-dire qu'il a fait à Jerez le coup Rossi-Gilberno. On se souvient tous des images,
dans le dernier virage.
Il l'a fait avec Lorenzo.
Mais il l'a fait aussi
Il l'a fait avec Lorenzo. Et donc ça, c'était très spectaculaire.
En Amérique,
et on disait, bon, c'est un peu chaud, mais là, comme Rossi l'avait fait, on peut rien lui dire puisque Rossi l'a déjà fait. Et très malin, très malin. Ouais. Et deuxième chose, le truc de fou, aux États-Unis, à Laguna Seca, dans le corkscrew, Rossi Stoner, on se souvient tous de ça, où Rossi a pris l'ascendant en cassant le moral de Stoner. En passant dans les gravillons, et il a fait la même chose sur Rossi. Je sais pas. On disait, il y a que Rossi qui peut réussir à faire ça, parce qu'on peut pas passer dans les cailloux à cet endroit-là. C'est de la folie, c'est un virage de fou et tout. Et lui, première année qu'il arrive, il fait ça à Rossi. Et Rossi, à l'arrivée, il est tombé dans les bras parce qu'il a dit, c'est quoi, c'est mon fils spirituel. Il a même pas. C'était n'importe qui d'autre. Il lui aurait foutu. Il serait bagarré. Ouais. Mais là, c'était tellement d'émotion. Il s'est dit, c'est moi. C'est peut-être que j'aurais dû être.
À tel point, on se demande, y aurait-il eu un Marquez s'il n'y avait pas eu Rossi?
Exactement. Oui, parce qu'en plus, c'est un super fan de Rossi. Non, mais c'est vrai. Il y a des posters de Rossi partout. Il n'osait pas le doubler quand il le voyait devant lui parce que c'était Rossi. Il avait du respect. Et il raconte ça. Il dit.
Je vois que tu t'emballes, Nico, là, mais tu sais, Rossi, il est aimé par les femmes, en fait.
Oui, moi j'aime bien Rossi.
C'est un mec adorable.
Ouais. Il a un charme terrible.
Si j'étais une femme, j'essaierais de me le faire.
Voyons, Gilles. Non, mais moi justement, quatrième quand même.
Ah oui, bravo, bien sûr. Ah ben, quand on voit le palmarès qu'il a fait, il a quand même réussi à gagner un Grand Prix. Il a été largement sur le podium.
Alors qu'est-ce qui se passe avec Rossi? Il a pas la machine ou vraiment il est en déclin?
Non, mais
c'est fini.
Il vieillit. On est tous là.
Non, je pense pas. Je suis sûr qu'il peut encore y arriver.
À gagner une saison?
Peut-être.
possible.
Et il a quand même gagné parce le Grand Prix de Silverstone. Pour lui qui s'est monté sur la première marche. Hein.
Sur l'appui, très bon.
Faut pas oublier qu'il s'est blessé une année. La dernière année chez Yamaha, il s'est blessé. Il a pratiquement pas couru, très peu. Il a fini sur le podium, mais pu gagner. Ensuite, il est parti chez Ducati. Il a galéré pendant 2 ans. Ça fait pratiquement 3 ans qu'il est plus au top.
Ben voilà.
Alors, il a quitté sa Yamaha qu'il avait formée. Il est retrouvé sur une Yamaha qui a été complètement refaite par Lorenzo. Donc il faut se réadapter à une autre machine.
Et attention parce que là il y a divorce avec son team là, le Burgess, il essayait, il est viré.
Il a fait ça pour se motiver. Il veut se motiver donc il veut se donner un nouveau challenge, donc il veut changer les gens. Mais quelque part il veut chercher, il continue à trouver de la motivation. Donc il faut changer des choses pour se motiver. Il le fait. Donc il continue à aller de l'avant. Il pourrait dire bon c'est bon,
je trouve cette vision un peu optimiste parce que je trouve que Rossi quand même on l'a vu à la peine sur beaucoup de courses.
Lui-même le dit.
Lui-même reconnaît que. Ouais. Et moi je me demande si 2014 ce n'aura pas le glas de la carrière de Rossi,
peut-être,
qui est un immense champion, qui est un extra.
Il restera dans les choses, mais aujourd'hui,
avec Marquez, on a aussi l'invention d'un nouveau style avec le coup de parterre qui a fait la une de tous les journaux. Enfin, c'est un style vraiment agressif, incroyable. Je veux dire, c'est vraiment un très beau champion.
Ah ouais, ouais. Non, franchement, là, il m'a épaté. Hein. Mmh. Je m'attendais pas à qui. Là... Je pensais qu'il allait gagner, c'était sûr. Je veux dire, il y a une ou deux, je pensais, mais franchement, comme ça, non.
Non, mais c'est sûr aussi. Là, vous allez faire pleurer Christine, hein, parce que là,
s'il
appuie Rossi sur le.
Non, mais. Rossi sorti par Marquez, il s'en est pas mal.
Il a fait une belle saison, quand même.
Très bien. Ça serait un coup dur pour le MotoGP qu'il soit plus là, parce que quand on voit le supporter dans les tribunes.
Tu vas au Mans, tu vas au Grand Prix de France. Même si il gagne port aussi. Eh ben, c'est quand il passe. Ah, ben oui,
mais c'est comme les Rolling Stones, on vient les voir. C'est fabuleux. En haut des chartes.
Ce qu'on n'a pas réussi à faire avec Pedrosa ou avec d'autres, Marquez va le faire. Il va remplacer Rossi, je crois.
Ah, c'est pas le même charisme.
C'est pas le même showman.
C'est pas le showman. Ah, non, c'est pas pareil. Toi, il faut aller voir.
Moi, je vois, il y a déjà des stands Marquez. Il y a tout un. On est en train de fabriquer une nouvelle star.
Oui, comme on a aussi des Lorenzo.
Lorenzo, il sera jamais comme Rossi. Il n'y aura pas le même impact.
Mais Lorenzo, parlons-en, puisqu'il est quand même, il a quand même failli être champion du monde dans le dernier Grand Prix. Et Lorenzo, quand même, bravo, quelle maîtrise.
C'est un sacré pilote.
Un métronome. Le gars, il passe au même endroit chaque tour, nickel, le même temps.
Et une détermination incroyable.
Il a joué avec les nerfs de tout le monde sur le dernier Grand Prix. Rouler à une seconde de son temps.
C'est pourquoi il a fait ça.
Oui, pour essayer de mettre
Rossi. À mon avis, il y avait c'était préparé.
Les autres n'arrivent pas.
À mon avis, c'était préparé à Yamaha parce qu'on a demandé à Rossi de venir s'intercaler entre Pedrosa et Marquez.
Oui, pour essayer
Parce que c'est qu'il s'est quatrième, Marquez.
Il fallait 3 écarts.
Ouais. Alors Rossi, soit qu'il a pas réussi, soit qu'il a pas voulu.
Il a pas réussi, je pense.
Non, il a pas réussi. Non, il est
sûr. Bien sûr qu'il aurait voulu.
Non, mais on va passer un morceau de musique parce que là, ça s'excite
et le temps passe. We'll be right back.
Donc là, on chante le MotoGP. On va revenir sur cette fameuse course de Moto 3.
La dernière course.
Incroyable, la dernière course.
Tout s'est préparé.
Mathématiquement, celui qui devait gagner le championnat du monde. Oui. En Moto 3, a chuté.
Tout s'est préparé avant. Il y a eu ce coup de théâtre où ils ont chuté à deux grands prix de la fin. Donc ils se sont réduits les points vraiment drastiquement. Et à la fin, il est resté 3 pilotes en 5 points. C'est la première fois dans cette catégorie et même dans d'autres catégories où ça se joue aussi peu, surtout sur 3 pilotes. Souvent, ça se joue sur 2 pilotes, mais rarement sur 3. C'est-à-dire le premier qui terminait la course avait gagné.
Voilà.
Et ça, il y en a un qui supporte. Si on se souvient bien de l'année dernière, Salom chutait beaucoup. Dès qu'il était en tête ou en deuxième position, il chutait. Et les vieux démons l'ont repris. Et en mi-course, on ne sait pas pourquoi, parce qu'il n'y avait vraiment pas vraiment de bataille encore, il est tombé.
Il a chuté.
Donc déjà après, ça ne se jouait plus qu'à deux.
Mais il était décroché.
Il était décroché. Bon, pas vraiment, parce qu'il ramarrait. Il ne faut pas oublier aussi que sa moto, c'est le team Ajo. Et c'est la meilleure, quand on regardait bien en vitesse de pointe en ligne droite, il les reprenait toujours en ligne droite, même quand il était largué à pratiquement une demi-seconde, il ramarrait souvent les deux autres. Et je pense que Vinales, au niveau vitesse de pointe, c'était quand même...
C'est quand même que 3 KTM hein,
qui sont pas... De toute façon, il n'y avait plus que des KTM qui se battaient devant. Hein. Les Honda, cette année, étaient complètement largués. Hein. On l'a vu avec
Masbou. Première Honda, c'est Miller.
Ou Miller, où là vraiment il s'accrochait, mais regarde Miller, il a essayé de s'accrocher pendant les trois quarts de la dernière course, il est tombé.
Voilà. Et l'an prochain, il sera en KTM, comme par hasard.
Et oui, et puis Vinales a gagné. C'était mes prévisions.
C'est ce que tu avais dit.
C'est ce que j'avais dit.
Il y a 8 mois là, au début de la saison.
La seule chose qui pouvait nuire à Vinales, et justement, il a changé cette année, c'est de marquer des points et non pas essayer de gagner, parce que avant. Ne pas gagner chez lui, c'était déshonorant et on aurait dit qu'il rentrait furieux. Et c'est ce qu'il y en a qui lui ont expliqué que on ne peut pas gagner toutes les courses, c'est pas possible. Un championnat, il faut qu'il marque des points. Et donc, il a marqué des points.
À l'entame du dernier virage, il y avait Rins qui était derrière. Qui était devant Vinales. Et donc, mathématiquement.
Oui, mais c'était passé juste.
Non, il l'a pris carrément à l'intérieur, Rins, mais beaucoup trop vite. Il est parti à l'extérieur. Et il y a Vinales qui l'a décroisé et qui a pu bien accélérer alors que Rins était sur l'extérieur.
Et sur la ligne d'arrivée, ils étaient à une demi-roue.
Incroyable, hein, sur 16 courses.
C'est Folger qui a réussi à prendre la deuxième place à Rins. Lui, pour une fois, Folger, justement, il a été décevant toute l'année en terminant souvent 4e, 5e, mais en suivant pas les 3. Les 3 espagnols encore, mais vraiment, ils ont dominé tout.
On va très vite, Claude, après les Français un peu...
Juste une petite il y a un nom aussi qu'on connaît, Marquez. Je pense que l'année prochaine, il sera là
Le
championnat.
Alex.
Oui, le petit Alex Marquez. Maintenant, il faut qu'il se fasse un prénom. Mais il a gagné une course cette année, devant Vinales.
D'accord.
Au Japon.
Au Japon.
On passe en Moto 2 ?
On passe au Moto 2.
Tout de suite. Là c'était fait, de toute façon il n'y avait plus de suspense.
Non, Sport Espargaro justement a voulu tellement bien montrer sur la dernière course qu'il a chuté. Il avait quand même une bonne seconde d'avance sur tout le monde et il a chuté tout seul, quoi, en essayant trop bien faire.
Mais là aussi, devant, il y a eu un coup du sort. Parce qu'il y a Redding qui a quand même fait une superbe saison.
Il méritait pas ça. Il a chuté deux fois vraiment. Et la deuxième fois, il est blessé.
Gravement.
Mais Paul Espargaro, pour revenir, qui part chez Tech 3 l'an prochain, ce qui est quand même exceptionnel. Là, on va avoir vraiment un couteau suisse.
Prend la place de Crutchlow.
Et donc, et Crutchlow qui part chez Ducati.
Chez Ducati.
Je pense qu'il va mettre un peu un terme à sa carrière avec ses départs chez Ducati. C'est peut-être le plus mauvais choix de sa carrière.
Il voulait être pilote d'usine.
Pour satisfaire sa propre ambition, c'est tout.
Ducati paye plus cher que peut-être que.
C'est sûr.
À moins qu'il ait payé pour y aller.
Un petit point sur les Français en Moto 2, Moto 3 là.
Alors en Moto 3, Masbou, il a fait une saison superbe en commençant doucement parce qu'il avait cassé son fémur. Un mois avant le début du championnat, donc il a traîné pratiquement le tiers de la saison, mais il a marqué des points beaucoup. Et il a prouvé par A plus B qu'il méritait une meilleure moto.
Et il reste en prochain dans la même catégorie, je pense.
Oui, mais je pense qu'il va rester chez Honda. Alors espérons.
Non,
je me dis. Oui, il reste chez Honda. Mais il aura une belle Honda normalement.
Mais il paraît que Honda va fournir un kit plus performant.
4-5 motos avec un bon moteur.
Zarco, moto 2 là.
Zarco, oui.
Troisième.
Mais il a été déçu. Il pensait avoir. Il y avait la moto de Marquez l'année dernière, donc Marquez était champion, donc il s'est mis tellement la pression. Qu'il a été grippé tout le début de saison, vraiment grippé. On l'a vu Il y a eu quelques chutes aux essais, il n'arrivait pas aux essais, du coup il s'énervait et on sentait que ça n'allait pas. Il n'y a qu'à la fin où c'est plus ou moins relâché.
Il a fait deux podiums, troisième place.
Problème de confiance sur la moto.
Une très belle. À la rage, vraiment. C'était superbe. Le dernier
Grand
Prix.
Ah oui,
donc, il est passé.
Dernier virage, le dernier virage. Une demi-roue là aussi. Ça s'est joué à la photo.
Louis Roussy qui finit 25e au championnat.
Ah ouais, 25e, ouais. Et 21e Di Meglio, mais il s'est blessé en cours de saison.
Et Louis Rossi qui repartirait sans doute vers le Moto 3, je pense.
Oui, avec une Kalex.
Avec une Kalex. KTM.
Et puisqu'on en est aux pilotes français, on n'a pas parlé de notre Randy.
Randy Pugnier qui
pilote
pas.
Suzuki.
Ouais,
non, c'est pas possible.
Non. Suzuki ne courra pas l'année prochaine, ils l'ont annoncé. Donc,
ce sera 2015.
Si De Pugnier est encore là, ça.
Il sera peut-être blessé.
33
ou
34
eux,
ans, ça sera peut-être un peu beaucoup, je sais pas.
Je pense qu'il va être chez Audi l'année prochaine.
Donc, on va revenir donc sur les prévisions 2014. Il y a 16 Grands Prix en fait, donc en 2014. 16 Grands Prix.
16. Il n'y a pas 17 Grands
Prix. Oui, 16, où je l'ai marqué quelque part là, mais bon, 20 bref.
Ouais.
On aura l'occasion de faire une émission avant les Grands Prix.
On aura l'occasion de.
Parce que pour l'instant, toutes les chaises ne sont pas encore sûres à 100%.
Ouais. Les dés ne sont pas encore. Alors, les cartes sont pas encore.
Ça va changer le calendrier encore.
Dans un mois, on aura ici dans le studio deux invités qui sont deux pilotes du Nord, Jules et Simon Danilo.
Il y en a un qui a fait une pige au Mans, c'est
donc
ça.
Donc il y en a un qui a roulé au Mans. Et donc celui qui a roulé au Mans là, va rouler en Moto 3 l'an prochain. Donc on aura un Français de plus. Et c'est quelqu'un du Nord. Il sera dans un mois dans le studio.
Très bien. Et on n'a pas parlé de Ben Spies.
Ah, il arrête.
Comment se fait-il parce que là c'est incroyable. Un pilote qui vient de.
Il s'est démis l'épaule.
Qui gagne le Grand Prix Superbike en USA.
Il était champion Superbike.
Première année.
Champion Superbike mondial.
Première fois. Il vient en
MotoGP, quatrième, très bien, très fort.
Première année, quatrième.
Ouais, voilà. Ouais.
Et puis après,
le moral à Amberne.
La
perte de confiance totale. Ouais. Je crois que c'est au plan mental, Ben Spies. Il n'y a pas de confiance.
Mental très fragile. Si tout marche bien, c'est un fonceur. Mais quand ça ne marche pas, ça ne marche pas.
Donc on revient un petit peu donc cette fameuse catégorie CRT qui va évoluer ou disparaître.
Qui va se dissoudre. Gentiment, on conserve un petit chouïa pour les Aprilia qui seront encore à peu près sur ce régime là. Autrement, pour les autres, on a ce qu'on va avoir des productions Racer. Donc en fait, ce sont des motos avec un moteur très proche de l'usine mais simplifié, sans la boîte seamless et avec une électronique commune à toutes ces motos.
Alors au début, cette fameuse boîte, je te fais une parenthèse, il y avait Conda au début du championnat qui avait cette boîte. Hein.
Oui.
Seamless, c'est un système qui permet d'engager un rapport pour éviter d'avoir un
simplifié. Il y a toujours un rapport engagé. Voilà, donc il y a jamais un moment où le moteur est débrouillé.
Ça engage toujours. Ça, le moteur,
on a beau changer de vitesse, il y a jamais un moment.
On continue à accélérer et on passe des vitesses.
Voilà.
Et donc au début, Honda avait cette fameuse boîte. Après Yamaha
l'a eu.
Elle a perdu sur la Yamaha.
Et Lorenzo, ça leur a redonné un petit peu d'air, et c'est vrai qu'en fin de saison, il était bien mieux grâce à ça. Ouais, donc il y a quand même un effet.
Ça, c'était la parenthèse boîte seamless. Hein. Mmh. Et on revient un petit peu donc catégorie CRT qui avait été conçue à l'origine pour étoffer un peu le plateau MotoGP.
Voilà, hein,
parce que
en fait, ça
devenait triste. Hein.
Ça devenait triste.
Honda donnera une moto entière. Qui soi-disant a été essayé par Stoner. Ils ont dit qu'elle avait été peaufinée par Stoner, mais Stoner il a dit moi j'ai fait 5 tours avec.
C'était juste pour valider,
c'est un peu de la com.
Ouais, voilà, c'est de la com. Et puis et Yamaha, eux donnent un moteur et ça sera à charge à l'équipe de trouver un châssis adapté.
D'accord. Bon, ben messieurs,
je voudrais signaler quand même qu'il y a une balade qui est organisée par le motoclub Les Méfiteux. Donc, ce sera le départ 14h30 le 30 novembre à Limbres, au café Le Galopin, donc au profit du Téléthon.
Alors, une petite annonce de notre Christine.
Et oui, aussi du 3 au 8 décembre, le Salon de la Moto à Paris Expo. Donc, il ouvre ses portes. Cette année, une exposition à la gloire des pilotes français et de leurs motos. Donc, l'entrée est à 14€ et gratuite pour les moins de 14 ans. Et je rappelle pour les motoclubs que c'est la saison des préparations des calendriers. Donc, Kikinkuti Tupal prépare son calendrier 2014. Donc, envoyez-nous vos manifestations. C'est gratuit. Vous pouvez aller sur notre notre site internet, vous retrouverez toutes les informations pour pouvoir nous les communiquer. Donc site internet knc.free.fr.
Et je vous donne une info, le premier Grand Prix au Qatar, ce sera le 23 mars.
23 mars.
Donc rendez-vous, Claude, 23 mars.
Oui, peut-être, hein, ou pour peut-être une super avant, émission. Un petit peu avant,
peut-être, on verra bien.
Rendez-vous mois prochain, et puis avec nos deux pilotes du Nord. Hein, donc, voilà, et je vous invite, hein, messieurs, donc, Nico et Claude, à venir nous rejoindre en studio.
Très bien, okay. Merci.
J'y serai aussi et je ferai des.
Oui,
je
merci. Signerai, excellent, monsieur Laurent Rodier.
Je signerai des
autographes. C'était la programmation musicale réalisée par monsieur.
Voilà, je signerai
merci,
des autographes.
Merci Nico, merci Christine. Et puis à dimanche prochain, bien sûr, 11h sur les ondes de Campus.
Bon dimanche à tous.
Au revoir.
Bye bye.